Réplique, l'école dans le monde qui vient, avec Michel Serres. Philosophe savant et conteur envoûtant, Michel Serres nous propose une histoire en trois étapes du travail humain. Et à chacune de ces périodes, il donne le nom d'un dieu ou d'une figure de la mythologie. Il y a d'abord Atlas, puis Hercule et Prométhée, enfin Hermès, notre modèle, notre dieu tutélaire. Porteurs ou maçons, les premiers ouvriers manipulent et soutiennent des formes invariantes et solides, explique Michel Serres. Les seconds transforment les choses en les liquéfiant par la chaleur, puis après le portage des formes, Atlas, et leur transformation, Prométhée, vient à l'âge mercurien de l'information, communication, passage, traduction, distribution, transmissions et réseaux. Alors qu'autrefois, nous fûmes plus agriculteurs et naguère notablement forgerons, nous voilà maintenant messagers, bien qu'encore dépendants des champs et de l'usine, écrit encore Michel Serres. Nous vivons l'avènement d'une nouvelle ère, et dans cette immense messagerie qu'est devenu le monde, rien n'est, rien ne peut être, rien ne doit être comme avant. Tout change, que nous le voulions ou non, et notamment la relation pédagogique. Les hussards noirs de la République, affirmez-vous Michel Serres, sont désormais habillés en Hermès. Faut-il comprendre que le règne de la parole enseignante est terminé et que les nouveaux réseaux ont sonné le glas des vieux maîtres, Michel Serres?
Mais c'est une loi que j'ai énoncée il y a quelques années, en effet, puisque dès les années 60, j'avais publié 5 volumes, vous le savez, qui s'intitulent Hermès. Hermès, la communication, la distribution, la traduction, etc. Et en effet, j'avais dit... Mais à cette époque-là, ce n'était pas joué dès les années 60. On était encore sous le règne de Prométhée, de la révolution industrielle, et en particulier, l'idéologie dominante était plutôt marxiste, c'est-à-dire plutôt en faveur de Prométhée. Et à l'époque où j'ai publié ces volumes d'Hermès, c'est-à-dire en 1960, j'ai été beaucoup critiqué par la population enseignante, précisément, qui était à dominante prométhéenne, vous voyez. Et à cette époque-là, c'était plutôt dangereux de dire que, peu à peu, la société allait basculer, d'une certaine manière, du côté du règne d'Hermès. Alors Hermès est un dieu intéressant, Mercure, comme vous l'avez rappelé en latin. C'est le dieu des traducteurs, c'est le dieu des commerçants, c'est le dieu qui avait sa statue dans les carrefours. C'est-à-dire, c'est lui qui indiquait les bifurcations, c'est-à-dire les changements de route, etc. Et sa statue était à peu près partout dans le monde antique, vous le savez. Et c'est lui qui indiquait, en effet, les changements de direction. Alors du coup, en effet, c'est à la fois un double dieu, le dieu de la communication, des réseaux. Alors, bon, il faut quand même s'arrêter là et dire que la notion de réseau, dont on parle beaucoup aujourd'hui, est une notion très, très ancienne. Car enfin, vous savez, il n'y avait pas de plus beau réseau que le réseau des voies romaines dès l'Antiquité latine. Mais beaucoup plus avant, les ethnologues ont remarqué qu'il y avait des réseaux dans la forêt pluviale ou la forêt amazonienne, où déjà les populations, bien avant le néolithique, avaient traversé et avaient rendu, d'une certaine manière culturelle, une forêt qu'on croit sauvage. Donc les réseaux datent d'il y a très longtemps. Et aujourd'hui, en effet, c'est plutôt de nouveaux réseaux dont, sans doute, on aura l'occasion de parler par la suite. Alors bon, maintenant, puisque vous m'interrogez sur l'enseignement,
oui.
Il est bien clair que Hermès étant l'inventeur de l'écriture... Il a été, dès le départ, le dieu de la pédagogie. Et en effet, qu'est-ce qui s'est passé au 5e siècle avant Jésus-Christ en Grèce? Enfin, l'écriture était née au premier millénaire avant Jésus-Christ, dans le croissant fertile au moins, puisqu'on a quand même le témoignage des prophètes écrivains d'Israël, déjà. Et au moment de la grande révolution du passage du stade oral au stade écrit, la pédagogie commence à changer. Pourquoi ? Parce que nous avons deux héros qui vont rentrer en joute, si vous voulez. Ça va être Socrate, qui parle et qui n'écrit pas, et Platon qui écrit et qui ne parle pas dans les dialogues. Vous voyez ? Et au fond, le platonisme est une philosophie qui témoigne de cette révolution première du passage de stade oral, si vous voulez, ou de l'ère orale, où le support du message était le corps enseignant, et où le message était la parole. Et la deuxième révolution, ça a été, je crois, l'invention de l'imprimerie, où on a eu en effet une nouvelle paideia, la paideia ancienne étant inventée par l'écriture. Puis la nouvelle pédagogie, c'est probablement la Renaissance, avec l'invention à peu près des sciences modernes, si vous voulez. Et nous sommes en train, en effet, de vivre la troisième, c'est-à-dire la révolution numérique. Alors, est-ce que ça va changer l'enseignement ? Ça l'a déjà changé, bien entendu, et nous essaierons de dire pourquoi.
Mais alors justement, vous dites que la pédagogie change totalement avec les nouvelles technologies. Vous le dites dans un livre qui est un petit livre qui a eu beaucoup d'écho, Petite Poussette. Et ce personnage nous intéresserait également.
C'est ça.
Et je peux vous demander naïvement en quoi ? Parce que prenons un professeur de français, par exemple.
Bien sûr.
À l'origine, j'étais moi-même professeur de français. J'ai un peu bifurqué depuis. J'enseigne la littérature.
Très bien.
En quoi les nouveaux réseaux sont-ils amenés à modifier mon enseignement de la littérature ? Je dois ouvrir des élèves, assez rétifs, nous verrons aussi pourquoi, à des grandes œuvres.
Oui.
Les nouveaux réseaux, ils changent peut-être le climat, mais je ne vois pas pourquoi ils modifieraient la nature même de mon enseignement.
Alors, bien sûr, il faut distinguer les enseignements. Il y a des enseignements de mathématiques, des enseignements de physique, de chimie, etc., avec des travaux pratiques, des enseignements de sciences naturelles, d'histoire naturelle, etc., de biologie. Il n'y a pas que la littérature qu'on enseigne. Alors, la première chose que ça change, c'est la chose suivante. C'est qu'en effet, autrefois, moi-même, j'en suis enseignant, comme vous. J'enseigne la philosophie ou l'histoire des sciences. Et anciennement, si vous voulez, et moi, j'ai cette expérience-là, il est très bien clair que quand je rentrais dans mon amphi, il était entendu que le sujet du cours était relativement inconnu aux gens qui allaient m'écouter. Et que moi, j'étais titulaire d'un savoir et qu'eux étaient incompétents dans ce savoir-là. Aujourd'hui, lorsque je rentre dans cet amphi, dans ce même amphi, je me pose toujours la question de savoir quelle est la probabilité pour que et combien d'étudiants ont tapé la veille sur Wikipédia le sujet de mon cours. Et il y en a forcément un certain nombre, et un certain nombre qui ont regardé avec attention, en effet, l'ensemble des informations qui pouvaient être afférées au sujet de mon cours. Et donc, il y a eu une époque qui est assez antérieure, mais enfin bon, que j'ai connue, parce que je suis assez vieux pour avoir connu les deux époques, où il y avait ce que j'appelle dans Petite Poussette une présomption d'incompétence. On peut varier là-dessus, d'ailleurs. Ce n'est pas seulement la relation enseignante, cher ami. C'est la relation du médecin au patient. Lorsque vous alliez voir le médecin, il était entendu que vous n'étiez pas compétent ni dans le diagnostic, ni dans le pronostic. Aujourd'hui, lorsque vous allez voir le médecin, il y a une probabilité pour laquelle vous ayez tapé sur votre ordinateur les ennuis que vous avez. Et vous avez en gros une idée, au moins grossière, au moins vague, de ce qui vous arrive. Et du coup, ce que j'appelle la présomption d'incompétence était vrai pour l'enseignant, était vrai pour le médecin, était vrai pour l'homme politique même, d'une certaine manière. Et aujourd'hui, ce que j'appelle présomption de compétence est en train d'arriver. C'est-à-dire la probabilité pour laquelle beaucoup de gens aient déjà vu votre texte de littérature ou le texte de mathématiques ou le texte d'histoire naturelle est probable. Et par conséquent, ça fait une sorte de rééquilibration dans la relation pédagogique. Voilà, c'est ça que je dis.
Mais je suis un peu sceptique quant à cette espèce de
rééquilibration.
De rééquilibrage. Oui. D'abord, je pense que la relation d'enseignement reste nécessairement une relation dissymétrique. Or, si Hermès est le dieu de la communication,
oui, c'est ça.
peut-il être aussi celui de la transmission? N'y a-t-il pas une différence à préserver entre la transmission et la communication? Et pour illustrer le scepticisme dont je parle, j'ai lu tout récemment dans Le Monde, dans le supplément littéraire du Monde, une enquête tout à fait inquiétante sur l'évolution de la lecture. Les enfants lisent. Les enfants lisent, ils dévorent Harry Potter, pourquoi pas? Mais les adolescents ne lisent plus.
Oui, ça c'est vrai.
Les adolescents.
Plus.
Et vraiment, la diminution est extrêmement spectaculaire.
Voilà, alors,
et des enseignants disent, évidemment, ils préfèrent se mettre sur Internet plutôt que de lire. D'où le sentiment d'un certain nombre de professeurs que le gouffre entre ce qu'ils savent et ce que savent les élèves, loin de s'atténuer, s'est encore aggravé sous l'effet, justement, des nouvelles technologies.
Alors oui, le gouffre s'aggrave en effet. Et pour comprendre cette nouvelle donne de l'affaire, je vous ai proposé tout à l'heure de réfléchir et de prendre du recul. Et de fait, lorsque on entend Socrate parler à ses interlocuteurs dans les dialogues de Platon, il ne comprend pas du tout qu'on puisse écrire, puisqu'il est pour la parole dite, la parole orale, qu'il appelle vivante, la parole vive, qui transporte l'esprit, la vie, etc. Et il trouve que l'écriture est morte, etc. Donc il y a un gouffre qui s'ouvre énorme, en effet, entre Socrate et Platon, c'est-à-dire entre la période orale et la période écrite. Et l'un, c'est-à-dire le prédécesseur, ne comprend pas l'autre, et pourtant c'est l'autre qui va porter la culture et la tradition, ce sera l'écriture. De la même manière, au moment de la Renaissance, vous vous rendez compte à quel point, cher ami, les docteurs de Sorbonne, Janotus de Bragmardo, par exemple, ne va rien comprendre à l'œuvre de Rabelais. Rabelais, en effet, arrive avec son Pantagruel et Gargantua. Il arrive à ce moment-là. Comment voulez-vous qu'un docteur de Sorbonne comprenne ce qui se passe dans Gargantua et Pantagruel? Et du coup, Montaigne, qui est précisément le témoin de ce passage-là, du passage de l'écrit à l'imprimé, il va dire quoi? Il va dire une chose qui est fondamentale. Il va dire « je préfère une tête bien faite à une tête bien pleine ».
Oui.
Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que auparavant, si vous étiez historien, si vous étiez physicien, il fallait savoir par cœur, si vous étiez historien, Hérodote, Thucydide, Tacite, Quintecurse, etc. Tandis qu'une fois que vous avez les livres dans votre librairie, comme dit Montaigne, vous n'avez plus besoin de les savoir par cœur. Par conséquent, ce qui change, c'est la tête. Ce n'est pas seulement le savoir, c'est la tête. Et Montaigne l'a bien vu. Et d'ailleurs, les deux expériences que je vous propose, enfin les deux témoignages historiques, c'est le passage entre Socrate et Platon, qui est un gouffre énorme, et le passage entre les docteurs de Sorbonne et Pantagruel, que Montaigne cite parfaitement en disant « tête bien faite et non pas tête bien pleine ». Et par conséquent, la tête a changé. Et je comprends parfaitement maintenant ce que vous appelez le gouffre. Là, on le comprend parfaitement, grâce à l'éclairage de ce qu'on peut appeler, un, la révolution de l'écriture, de la révolution de l'imprimé. Aujourd'hui, la révolution numérique ouvre un nouveau gouffre, et vous avez raison de le dire, c'est un gouffre.
Oui.
Mais seulement, il faut le comprendre.
Il faut le comprendre,
voilà.
Mais évidemment, simplement, est-ce que une nouvelle tête bien faite peut émerger,
voilà,
de la toile? Et un certain nombre de gens, d'utilisateurs même d'Internet, se posent des questions. Je me souviens de ce livre de Nicolas Carr, un chercheur américain, « L'Internet rend-il bête ?» Parce qu'un livre propose un monde, Internet fluidifie le monde. Un livre, on chemine,
avant,
Internet,
avant
on
de
surf.
Vous répondre, je voudrais savoir,
pardon,
quel type d'Internet vous utilisez pour qu'on puisse...
Ah, mais moi, je ne suis pas un utilisateur.
Ah bon,
moi, je suis
alors...
un handicapé informatique.
Ah bon, mais dans ce cas-là, notre discussion va être assez difficile, parce,
oui,
que nous allons parler d'un monde où quelqu'un d'entre nous, l'un d'entre nous n'est jamais allé. C'est difficile
d'en
parler.
Non, j'y suis allé avec des...
Ah bon,
je m'y suis promené avec des,
oui,
guides, etc.
Non, mais c'est grave,
non,
de dire ça.
Non,
oui.
Alors, si vous voulez, je vais vous livrer le témoignage. Témoignage d'un utilisateur qui, d'ailleurs, siège avec vous à l'Académie française, Marc Fumaroli.
Marc Fumaroli est en effet un grand papa grognon, un grand papa ronchon, dont j'ai parlé hier à l'Académie.
Voilà. Vous étiez à l'Académie française.
Oui, c'est le grand papa ronchon type.
Bon, vous étiez à l'Académie française.
Le nouveau ne vaut plus rien. Voilà.
Donc, en effet, j'étais moi-même. Ah bon. J'ai assisté à votre discours puisque je venais à l'invitation de Bérénice Levay, qui a reçu un prix pour son livre « Le musée imaginaire d'Anna Arendt ». J'ai entendu le discours que vous avez prononcé, très beau, sur la vertu, discours traditionnel. Oui. Et en effet, vous avez commencé par une opposition entre grand-papa grognon...
Non, ronchon.
Ronchon, pardon.
C'est mieux ronchon.
Oui, c'est mieux ronchon. Grand-papa ronchon et petite poussette.
Exactement.
Je me suis...
Petite poussette est mon héroïne.
Voilà, petite poussette est votre héroïne. Je me suis moi-même reconnu dans grand-papa
Ronchon. Mais il était dit dans mon discours quand même que grand-papa Ronchon était un peu au courant des nouvelles technologies.
Oui, mais justement.
Vous n'êtes pas, vous dites que vous n'êtes pas.
Donc je suis un arrière-grand-père, mais je suis quand même au courant. Je lis des livres, vois ce qui s'y passe. Donc je vous citerai Fumaroli quand même, parce que aussi grand-papa Ronchon qu'il soit, il se sert d'Internet et il s'en est beaucoup servi, dit-il, pour écrire son magnifique dictionnaire des métaphores. Il dit, grâce à cela, j'ai pu en effet ne pas courir d'une bibliothèque à l'autre. Tout venait merveilleusement à moi. Mais, dit-il, il rend beaucoup plus riches les déjà riches. En revanche, plonger les enfants et les adolescents dans cet univers, c'est très dangereux parce que ce qu'on voit, c'est un monde bariolé et numérisé qui fait écran au monde.
Le mot écran n'est pas mal, en effet, devant un écran.
Donc,
ça tombe bien.
Ça nous ramène à la relation enseignante. J'ai le sentiment que les meilleurs utilisateurs de la toile, qu'il s'agisse de la documentation ou même des SMS, ce sont des gens qui ont grandi, qui ont été formés dans la graphosphère. Et donc, ils peuvent évoluer à l'aise dans ce que Régis Debray appelle la numérosphère. En revanche, les digital natives, eux, certes, sont plus à l'aise, mais ils se noient, me semble-t-il.
Alors,
Michel Serres.
Je crois en effet que Petite Poussette est une population qui, en effet, est née dans les années 85 à 95, c'est-à-dire au moment même où les nouvelles technologies se répandaient. D'accord. Et les prédécesseurs, en effet, lorsqu'ils sont au courant, pas seulement grand-papa Ronchon, mais enfin ceux qui sont au courant, travaillent avec les nouvelles technologies, ce qui implique une certaine extériorité. Lorsqu'on travaille avec une machine, on n'est pas forcé de savoir ce qui se passe dans la machine. Tandis que la génération d'après, ce que vous appelez précisément, ce que j'appelle les petites poussettes, vivent dans un monde qui est impliqué par les nouvelles technologies, et c'est ce monde-là que grand-papa Ronchon ne comprend pas. Un peu, si vous voulez, comme les docteurs de Sorbonne du Moyen-Âge ne pouvaient pas comprendre l'univers de Rabelais. Or, l'univers de Rabelais, qui est l'univers du livre, qui est l'univers du livre imprimé, parce que le livre imprimé, ce n'était pas tout à fait le rouleau ancien, parce que le rouleau ancien était inaccessible, vous le savez. Il n'y avait qu'une bibliothèque à Alexandrie ou une bibliothèque au Vatican ou à Bologne. On n'avait pas accès, lorsqu'on était dans une campagne bordelaise, à ce type de rouleau. Et dès lors qu'on a accès à la bibliothèque, on a une autre tête. Alors, pour essayer de faire comprendre où est cette tête-là, je voudrais vous raconter une histoire que je raconte précisément dans Petite Poussette. Il était une fois une ville qui s'appelait Lutèce et non pas Paris. Et là, il y avait les nouveaux chrétiens qui se réunissaient de façon tout à fait secrète parce qu'ils étaient persécutés par l'empereur Décius. Et un jour, ils s'étaient en effet réunis dans un endroit très secret. Mais ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire la légion romaine a enfoncé les portes et les fenêtres. Ils se sont précipités sur l'évêque, ils ont décapité. Voilà. Et alors, bon, la tête roule par terre, et je le raconte dans Petite Poussette.
Oui, absolument.
Et Saint-Denis, puisque c'est de lui qu'il s'agit, prend la tête et la transporte, je crois. La géographie dit qu'elle la transporte au sommet de Montmartre. Bon. Et en effet, cette tête-là a été extériorisée, externalisée. Et voilà, cette tête est allée devant. Et vous vous rappelez tout de même, puisqu'on est à peu près de la même génération, peut-être un peu plus différencié, que lorsque nous étions en classe de philosophie, on nous disait que la connaissance humaine était divisée en trois facultés. La faculté de mémoire, la faculté d'imagination et la faculté de raison. Vous vous rappelez, mémoire, c'était le triptyque cognitif. Et ça, nous le portions dans, subjectivement, dans votre tête ou dans ma tête. Et aujourd'hui, je raconte l'histoire de la décollation de Saint-Denis pour dire que la tête est extérieure à moi. Et en effet, j'ai devant moi quelque chose qui a un outil qui a plus de mémoire que moi, plus d'image que moi et, à certains égards, plus de raison que moi, puisqu'il y a des moteurs de recherche qui arrivent à faire des exploits qui sont largement au-dessus de mes capacités. Bon. Donc, cette tête externalisée porte quelque chose à la Renaissance. Montaigne disait précisément « tête bien faite » plutôt que « tête bien pleine oui. ». Et moi, je dis maintenant « tête externalisée ». Vous voyez, et la coupure et le gouffre est énorme, vous voyez, parce que cette cognition est externalisée là. Et je peux m'en servir presque comme un outil, et tout à fait comme un outil d'ailleurs universel, puisque c'est un outil cognitif. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre dans le monde moderne, c'est que désormais l'outil est cognitif. C'est-à-dire qu'il y a un objet extérieur à moi qui a des facultés, avec autant de guillemets que vous voulez, cognitives. Et alors ce qui me reste sur la tête, ce qui me reste sur mon cou décollé, effectivement, c'est l'intelligence, l'inventivité, tout ce qui est l'innovation. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a un rapport maintenant au savoir qui a complètement changé et qui a changé d'autant qu'on peut le comparer aux changements cognitifs qui ont eu lieu à la Renaissance, qui ont eu lieu au moment du platonisme, au moment où on a inventé l'écriture. Et par conséquent, en effet, non seulement la relation pédagogique a changé, mais la relation cognitive a changé complètement. Vous voyez, c'est ça la question.
Oui,
c'est ça qu'il faut. Le gouffre est énorme, en effet, puisqu'on assiste à l'externalisation du cognitif.
Mais alors, quel rapport entretient-on avec ce cognitif externalisé, Michel?
Mais on l'a toujours fait, mon cher.
Oui, bien sûr.
Bien sûr.
Je reviens à la relation pédagogique et à ce que doit être notre autorité, c'est-à-dire notre responsabilité envers les nouvelles générations, notre responsabilité d'adulte. Je suis moi-même une sorte d'arrière-grand-papa grognon, mais je m'informe. Voici un témoignage.
D'accord.
Le témoignage d'une jeune enseignante d'histoire qui a, je crois, avec tous ses outils, un rapport de familiarité qui n'est pas le mien. Je veux parler de Mara Goyet. Elle est professeure d'histoire dans un collège. Elle a été longtemps professeure dans un collège de banlieue. Elle enseigne aujourd'hui dans un collège plutôt, disons, tranquille, à Paris, intramuros.
Oui, j'ai lu le livre. Oui.
Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle dit l'ambiance, quoi qu'on pense, n'est pas au travail. Il y a mille autres sources de divertissement pour les élèves, texto avec le smartphone. En effet, le téléphone est intelligent. Appel télé, jeu net, MP3. Et elle dit ceci, alors elle visite... À un moment donné, elle nous décrit la chambre des enfants et des adolescents d'aujourd'hui, qui n'a évidemment rien à voir avec la chambre où Proust, adolescent, s'enfermait pour lire. Il y a un canapé, puisque le canapé, maintenant, c'est à ce point démocratisé qu'il y a des canapés dans les chambres des enfants, sur lesquels ils se vautrent. Et que se passe-t-il ? Eh bien, en effet, il y a une multitude d'échanges en SMS et ils sont plongés dans le brouhaha écœurant d'échanges stériles et formatés. Et quand
c'est
on apprend...
C'est magnifique, écœurant, stérile et
oui,
formaté.
Oui, ça
vous plaît pas. Ça, c'est ronchon.
C'est ronchon.
C'est vraiment
ronchon. Encore.
C'est fantastiquement ronchon.
Oui, mais je ne veux pas du tout...
Pourquoi voulez-vous qu'ils soient mes enfants soient écœurants, stériles et formatés
et
c'est extraordinaire.
Si on les laisse à
quelle
eux-mêmes...
Quelle haine.
Non, aucune.
Ah ben si, quand même.
Si on les laisse à eux-mêmes, oui. Et surtout, vous comprenez bien, si on apprend...
Moi, je les aime, ces enfants-là. Je ne les trouve pas ni stériles ni formatés. Ils échangent entre eux. Que voulez-vous, c'est merveilleux. merveilleux. Si... Ils inventent enfin des appartenances et des communautés que nous n'avions pas imaginées. Tant mieux.
S'ils échangent 150, comme c'est dit, SMS par jour, comme ils le reconnaissent eux-mêmes, ils les échangent, évidemment, aussi en classe. Et le smartphone est l'ennemi de l'enseignant, si tant est qu'on croit encore, comme je le fais, à la parole magistrale. Et elle les aime, mais elle les aime assez, Mara Goyet, pour ne pas les abandonner à leur sort, au sort que la technologie leur fait.
Alors je peux vous dire, en effet, oui, je peux vous dire en effet que moi aussi j'ai été un adolescent et j'étais dans la marine, figurez-vous, et j'étais en effet à Djibouti à un certain moment, après la campagne de Suez, et j'étais amoureux, j'étais fiancé, et ma fiancée était à Bordeaux. Et nous nous écrivions. Et nous nous écrivions une correspondance d'amour, comme on dit. Alors voilà, ben c'est très simple. Les lettres mettaient 2 mois et demi à parvenir à Bordeaux. Et quand je recevais 5 mois après la réponse de mon amoureuse, je ne comprenais plus quel était mon état d'âme d'il y a 5 mois, forcément. Aujourd'hui, l'amoureux qui se trouve à Djibouti avec son amoureuse à Bordeaux, elle part avec son smartphone. Et la correspondance d'amour date du smartphone, parce que là, au moins, il y a une correspondance parfaite. Savez-vous, par exemple, qu'avec les nouvelles technologies, elles ont été inventées pour les hommes d'affaires, forcément, hein, parce que le profit est toujours là. Mais on a aujourd'hui des chiffres extraordinaires qui disent que 65 à 70% des échanges en question sont intrafamiliaux entre maman et les enfants, entre maman et papa, ça a plutôt renforcé les relations familiales. Vous voyez ce que je veux dire? Alors du coup, du point de vue de l'enseignement, alors
revenons à
l'enseignement, si vous le voulez.
Bien
alors
sûr.
J'aime bien que vous ayez utilisé le mot d'autorité. C'est magnifique le mot d'autorité, j'aime bien le mot autorité. Savez-vous, cher ami, vous le savez mieux que moi, que autorité est un mot latin qui est de droit romain. Autor voulait dire précisément la personne qui se porte aval dans un tribunal, mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce substantif autor, qui est de droit romain, vient du latin augere, qui veut dire augmenter. Vous savez qu'en anglais, ils disent auction, le C est gardé, et par conséquent, qui a de l'autorité, c'est celui qui vous augmente. Alors très bien, nous y sommes. La probabilité pour que mes étudiants aient déjà lu de l'information sur le sujet en question, c'est très bien, c'est ça. Je vais maintenant considérer la présomption de compétence dont je parlais. Très bien. Mais maintenant, pour avoir de l'autorité, il faut que j'augmente ce savoir. Et précisément, ma métaphore concernant la cognition extériorisée, c'est-à-dire que la connaissance est extérieure, la tête de Saint-Denis est à l'extérieur, eh bien, je trouve maintenant que je dois faire fonctionner ce qui reste sur ma tête, c'est-à-dire l'intelligence, la nouveauté, l'innovation, etc., ce qui augmente le savoir. Et qu'est-ce qu'un enseignant maintenant? C'est précisément celui qui a une autorité parce qu'il augmente ce savoir qui est déjà là, dont on peut en effet présumer qu'il est déjà là.
Voilà. Oui, alors je ne sais pas.
Alors évidemment,
si...
ça a changé, mais c'est comme ça que vous enseignez sûrement comme moi, il n'y a pas de doute
je
là-dessus.
Je ne sais pas si vraiment on peut préjuger dans l'enseignement secondaire aujourd'hui que le savoir est déjà là. Il me semble qu'il manque cruellement, mais surtout, vous reconnaissez dans Petite Poussette qu'il y a aujourd'hui, dans les classes, une espèce de brouhaha.
Exactement.
Dont, d'une certaine manière, vous félicitez. Mais il me semble que pour augmenter le savoir ou pour introduire de la pensée et du savoir dans la conscience des enfants, le silence est absolument indispensable, mais effectivement, avec cette espèce d'immédiateté induite par les nouvelles technologies, on ne l'a plus. Ça devrait plutôt être considéré comme un empêchement, à cette augmentation.
Toute la question, cher ami, toute la question est vraiment d'essayer de comprendre quel est le monde induit par les nouvelles technologies, parce que toutes les questions que vous posez supposent, admises, toutes les règles, les formats et le monde précédant les nouvelles technologies. Alors, si vous voulez juger des nouvelles technologies d'après le format du monde précédent. Vous êtes dans le cas de Socrate, ça peut que vous plaire, dans Socrate qui ne comprend absolument pas ce que veut dire l'écriture, ou dans le cas des docteurs de Sorbonne du Moyen-Âge qui ne peuvent pas comprendre du tout le monde dans lequel rentre Rabelais, rentre Erasme, rentre Montaigne. Vous voyez. Or, la coupure est en effet là, et Hermès, dont on a parlé tout à l'heure, il est au carrefour. Il est la statue qui montre la bifurcation. Et en effet, la culture a bifurqué. Non seulement la culture, mais le sujet de la culture. Non seulement le sujet de la culture, mais la tête, mais la cognition de la culture. Tout a bifurqué. Et il faut comprendre cette bifurcation. Notre rôle d'enseignant, ce n'est pas d'interdire ou de trouver dangereux ou de trouver stérile, ou de trouver, etc. Ce monde-là, c'est de comprendre la bifurcation pour aider précisément la naissance de cette nouvelle culture. Qui a eu lieu au 5e siècle, je répète, ou à la Renaissance. Oui, nous sommes en pleine Renaissance.
Nous sommes en pleine Renaissance, exact. Dites-vous. Il me semble, et sans doute vais-je vraiment aggraver mon cas de...
votre cas n'est pas grave, mon cher.
De grand-papa Ronchon. Hein? Il me semble que l'éducation, en tant que telle, relève du vieux monde. J'ai sous les yeux... un très beau texte de Ricoeur, qui était republié par la revue Le Portique, il y a quelques années, la revue de Jean-Paul Reisweber et Benoît Goetz, sur l'enseignement.
Oui, oui.
Il dit « Qu'est-ce que je fais quand j'enseigne ? Je parle. Je n'ai pas d'autre gagne-pain et je n'ai pas d'autre dignité. Je n'ai pas d'autre manière de transformer le monde et je n'ai pas d'autre influence sur les hommes. La parole est mon travail. » La parole est mon royaume. Je parle seulement pour communiquer à la génération adolescente ce que sait et ce que cherche la génération adulte. Et il y a une chose qu'une réforme de l'enseignement ne peut se proposer d'atteindre, la fin du règne de la parole dans l'enseignement. Peut-être que Socrate aurait pu prononcer cela.
Qui vous a dit que le règne de la parole était arrêté ? Vous en êtes la vivante preuve. C'est-à-dire que vous êtes le professeur de France Culture. Vous êtes la vivante preuve que les nouvelles technologies, c'est-à-dire la radio, les réseaux, vous permettent de parler. Alors, triomphez, mon cher. Vous n'êtes plus grand-papa Ronchon. Vous êtes exactement dans le coup. Et ce qui est intéressant dans le mot éducation, d'abord, premièrement, ne croyez pas qu'avec ces ruptures-là, on va bouleverser à ce point. Parce que ce n'est pas parce qu'on a écrit qu'on a arrêté de parler, ce n'est pas parce qu'on a imprimé qu'on a arrêté d'écrire, et ce n'est pas parce qu'on a les numériques qu'on arrête d'imprimer, puisqu'aujourd'hui, on a même une imprimante à la maison. Par conséquent, c'est cumulatif et ce n'est pas seulement le gouffre. Deuxièmement, je veux bien écouter ce que dit notre vieil ami Ricoeur, mais il oublie complètement que le mot éducation est un mot très intéressant. Vous avez remarqué que c'est « et » ex, c'est-à-dire que le préfixe est le préfixe ex, et que ducation, c'est dux, ducere, conduire. Mais ça veut dire conduire où ? Conduire à l'extérieur, conduire au dehors, conduire dans la bifurcation précisément que je suis en train de décrire. C'est-à-dire l'éducation, c'est bien entendu transmettre du savoir déjà là, mais aussi transmettre à la génération future son propre monde et éducation, c'est-à-dire conduire dux, conduire ducere, et en dehors, c'est-à-dire de façon bifurquée. Et vous retrouvez Hermès, exactement.
Hermès. Est-ce qu'au contraire, l'éducation ne serait pas une certaine aptitude à conduire cette génération hors de son monde pour lui permettre,
mais bien sûr,
par un grand détour, oui, d'y revenir mieux armé, avec la distance qui est nécessaire. Parce que l'éducation a affaire avec le passé, et le passé introduit vis-à-vis du brouhaha du présent une distance.
Vous voyez, le présent est dans le brouhaha et le passé est toujours chez vous. Le passé est toujours de la valeur et le présent est toujours dans le brouhaha.
Écoutez, mais le présent est dans le brouhaha parce que ce que nous avons retenu du passé, mm-hmm, c'est tout autre chose que son brouhaha. Nous avons retenu un certain nombre d'œuvres avec lesquelles nous sommes invités à converser. Le présent est forcément un brouhaha et ce brouhaha aujourd'hui a pris des proportions inimaginable du fait, justement, de la communication planétaire.
Je voudrais un peu faire une sorte de contre-pied et de parler des sciences. Parce que c'est intéressant aussi de parler de l'enseignement des sciences, qui a beaucoup changé à cause des nouvelles technologies, et même la recherche, parce que la science de mon temps n'était pas la même que la science aujourd'hui donnée avec l'ordinateur. Et je voudrais vous donner un mot intéressant, puisque vous parlez des anciens avec des citations. Allez, je vais me mettre à citer moi aussi. Max Planck, que vous connaissez peut-être, qui est le grand physicien du début du XXe siècle, qui a donné son nom à tous les instituts de recherche allemands. Max Planck aimait dire à la fin de sa vie, alors qu'il avait le bilan d'une vie vraiment bien remplie d'inventions et de découvertes, il disait « Oh, ne croyez pas que c'est parce que les théories ou les expérimentations de physique sont vraies que la science serait des progrès. Non, non, c'est pas pour ça. C'est parce que la génération d'avant vient de prendre sa retraite. » C'est comme ça qu'on fait des progrès. Alors, si vous voulez chaque fois enseigner à la nouvelle génération, qui a un nouveau monde, l'ancien monde, vous la bloquez complètement, elle n'inventera plus. Rabelais n'avait aucun intérêt à savoir par cœur la scolastique du Moyen-Âge. Il inventait un nouveau monde, il inventait Pantagruel, il inventait Gargantua, il inventait les îles Tohu-Bohu, etc. Et bien entendu, ils étaient désespérés, les Janotus de Bragmardo.
Oui,
et bien
enfin,
c'est ça.
Ils voulaient aussi qu'on apprenne le grec, le latin et même l'hébreu. Et bien, il avait réintroduit l'hébreu dans la culture.
Mais le latin, l'hébreu, etc., ils sont dans Wikipédia, cher ami, ils y sont. Et même, c'était mon désespoir. Savez-vous, puisque je vous parlais de moi à propos d'Herbès en 60, je vais voir le directeur de l'école normale dans les années 80, et je lui dis, toute affaire cessante, mettez tous les normaliens à mettre toute la science et toute la littérature et toute la culture en ligne. Et il m'a répondu, il faut des examens pour ça. Vous voyez, c'était désespéré, parce qu'on avait déjà inventé Wikipédia, nous tous. Vous voyez ce que je veux dire? Et bon, on était donc en avance. Mais c'est cumulatif, comme je vous l'ai dit. C'est vrai au vide en latin et dans Wikipédia. Virgile en latin et dans Wikipédia. Le grec est là, l'hébreu aussi.
Bon, oui, mais on vit
donc
dans Wikipédia.
On est dans Rabelais, tout simplement.
On est dans Rabelais avec ce savoir externalisé. En même temps, ce dont les professeurs, là maintenant, de l'enseignement supérieurs se plaignent, autant que ceux du secondaire, c'est de voir les élèves se contenter, pour leurs différentes compositions,
de faire du copier-coller. Je connais l'astuce.
Ben, il le constate, il s'en désole, puis on se dit, le savoir est externalisé, donc mon rapport à savoir, c'est le clic. Je sais, puisque j'ai accès. Entre l'accès et le savoir, il y a encore un gouffre. Il y a toujours des gouffres.
Ça a toujours été ma critique, cher ami. Ça a toujours été ma critique. Quand je lisais des livres et que j'étais jeune et que je les lis encore maintenant, je me dis, mais comment ça se fait que ce professeur qui a écrit ce livre soit tellement citationnel? Il ne fait que du copier-coller. C'est-à-dire, il cite sans arrêt et Aristote et Platon et machin et truc et le dernier. Et il a des livres partout pour pouvoir parler. C'est-à-dire, il cite sans arrêt. C'est du citationnel. C'est-à-dire cette critique que vous faites aux jeunes étudiants, mais l'ancienne génération le faisait, mais avec le livre. C'était pire encore, vous voyez. C'est-à-dire ils ne peuvent plus penser par eux-mêmes, ils ne font que citer. Qu'est-ce que c'est qu'une thèse au fond? Une thèse a d'autant plus de valeur qu'il y a beaucoup de notes en bas de page et des index extrêmement fournis. Écoutez, il n'a pas pensé par lui-même. C'est pas un bouquin, ça. C'est pas une invention, ça. C'est rien du tout. Par conséquent, le professeur, pour avoir son agrégation, pour avoir sa thèse, a fait pire que ce qu'il critique dans Wikipédia. Écoutez, c'est pas raisonnable.
Pire, je ne sais pas.
Non, mais c'est pareil. C'est la même chose. Au lieu de couper-coller dans Wikipédia, on coupe-colle dans le livre.
Non,
c'est la même chose.
Citer.
Mais bien sûr, c'est
citer,
la même chose.
Citer, ça peut être aussi un exercice.
Eh bien, couper-coller aussi, ça peut être un exercice. Why not? Pourquoi pas? Mais oui, c'est la même chose.
Bon, peut-être. Je suis pas sûr.
La citation, c'est pas du couper-coller?
Non, parce que vous avez des citations et vous avez quand même un raisonnement que ces citations illustrent. Le copier-coller, il n'y a plus de raisonnement.
Oui, oui. J'en ai lu des thèses, vous savez, inutiles à cause de ça, c'est-à-dire c'est de la citation perpétuelle. Mais la citation perpétuelle, c'est du copier-coller de Wikipédia. Ni plus ni moins. Alors, ne critiquez pas la nouvelle génération quand vous faites la même chose.
Non, d'abord, je ne suis pas sûr d'avoir fait la même chose.
Je le dis vous en général.
Je le sais. Mais il ne faut pas non plus que tout ça s'accentue. Mais alors, j'ai une autre question à vous poser, parce que pour mieux comprendre cette mutation de la relation pédagogique, c'est le thème de Andromaque Veuve Noire, le livre que vous avez publié à Lerne, c'est le thème de Petite Poussette.
C'est pas tout à fait. C'est-à-dire, la pédagogie n'est qu'un cas particulier. C'est-à-dire, décris plutôt un monde entier.
Voilà, c'est vrai.
C'est-à-dire, la pédagogie est un cas particulier.
Absolument. Mais vous dites, au fond, et vous trouvez une positivité à ce bavardage de Petite Poucette en disant qu'il y a une demande de plus en plus forte, précise, venue de ces jeunes, venue de Petite Poucette, et que ça change même la nature de la relation. Tout d'un coup, maintenant, il faudrait, si j'ai bien compris, pour les professeurs, mieux répondre à la demande. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous voulez
dire ? Écoutez, je crois en effet que si on analyse, en faisant un contre-pied, le même contre-pied que tout à l'heure, la relation entre le médecin et le patient, par exemple, où il y a une relation 1-1, c'est beaucoup plus facile à analyser. En effet, le patient a un certain type de douleur, un certain type de symptômes, un certain type de difficultés quand il va voir son médecin. Et le médecin, si l'examine en lui disant « tais-toi », s'il l'examine en lui disant « tu n'es pas compétent », etc., il peut faire des erreurs assez considérables. Il vaudrait mieux, au début, qu'il l'écoute. Et même si le patient, un peu vaniteux, dit « mais j'en connais autant que toi parce que j'ai regardé sur Wikipédia ou sur la toile ce que veut dire « paix de travers », par exemple. Bon. Donc la relation dont j'ai parlé tout à l'heure est plus équilibrée, c'est-à-dire il y a une écoute. Et dans la relation pédagogique, j'ai eu l'intuition en enseignant, parce que je suis comme vous un enseignant, qu'à partir d'un certain moment, le monde ayant complètement changé, j'avais besoin d'écouter, d'autant plus si vous voulez que j'ai enseigné un peu dans le monde entier, en particulier aux États-Unis, mais aussi en Asie, en Afrique et un peu partout. J'avais l'impression tout d'un coup que le monde avait tellement changé que je gagnais énormément à écouter ce dont il s'agissait. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec de nouvelles technologies. Vous le savez sans doute, aussi bien que moi, que jusqu'à un certain moment, en France, nous enseignions à des Français, en Californie, à des Californiens, ou à Shanghai, à des Chinois. Bien. Eh bien, disons, à partir des années 70, 75, vous voyez, on s'est mis à enseigner à des mélanges. C'est-à-dire, en France, le mélange est un peu plus africain, beurre, européen. Et là où j'enseigne à Stanford, le mélange est un peu plus asiatique, c'est-à-dire coréen, chinois, philippin, etc. Et du coup, l'enseignement s'est mis à écouter ce multiculturel qui est devant moi. Je ne peux plus dire tout à fait les mêmes choses à quelqu'un qui est une population cohérente culturellement et une population qui est multiculturelle. Mon discours est obligé de changer. Voilà, vous le sentez. Eh bien, de la même façon, lorsque le nouveau monde est arrivé, le nouveau monde dont je parle, il y a une écoute vraiment très précise à faire quand on est enseignant pour comprendre le monde dans lequel ils sont et non pas à le juger comme bavard, faisant du bruit, stérile, etc., comme vous l'avez dit tout à l'heure. Non, non, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, écoutez la nouveauté. Et à ce moment-là, une fois que vous avez compris cette nouveauté-là, un peu comme la multiculturelle, alors adaptez votre enseignement. En effet, il y a une nouvelle parole à inventer. Inventons une nouvelle parole.
Inventer ou adapter. Mais est-ce qu'il ne revient pas au maître, et quelle que soit l'époque précisément, de ne pas satisfaire la demande, de dérouter la demande. Le maître se définit par son extériorité.
Éducation dit ça, vous avez raison.
Il est extérieur. Il m'apporte, comme disait Lévinas, plus que ce que je contiens, et même plus que ce à quoi j'aspire. Mais me déconcerte.
Et je suis justement ça, c'est justement ça. Il ne peut me déconcerter que s'il connaît le monde dans lequel je suis. Me déconcerte pas s'il me dit quelque chose de totalement étranger. Mais il a chance de me déconcerter précisément s'il a compris l'habitat dans lequel je demeure. S'il comprend l'habitat dans lequel je demeure, alors là, oui, il peut m'éduquer, c'est-à-dire me dérouter, me faire bifurquer. Ça, je suis d'accord avec vous, c'est mon travail. Je le fais précisément, mais je ne peux pas le faire si je ne suis pas compréhensif et lucide sur le monde dans lequel ils sont entrés.
Très bien. Alors, j'aurais aussi une question qui, qui a surgi en moi,
oui,
à l'écoute de ce discours que vous avez prononcé donc jeudi, oui, à l'Académie française. Parce que vous avez fait un lien très éclairant entre la vertu et le virtuel.
Et le virtuel, oui.
Mais précisément, et là je reviens au problème qu'on a vis-à-vis de la lecture, j'ai quand même le sentiment qu'il y a virtuel et virtuel. C'est-à-dire que la littérature, c'est une sorte de réserve d'invisible.
Oui,
nous avons
virtuel,
des personnages que,
exactement,
nous ne voyons pas. Le virtuel nous fait tout voir. Et, exactement, l'image là, oui, préempte l'imagination, si tant est même qu'elle ne la remplace pas. Donc n'y a-t-il pas à l'intérieur du virtuel un combat à mener entre, si j'ose dire, ces deux virtualités?
Mais je l'ai dit. C'est ça que j'ai dit à oui, l'Académie française. J'ai dit précisément, ce virtuel-là, il est tellement profond dans l'âme humaine, dans l'imagination humaine, que pour connaître l'homme dans sa singularité individuelle, la littérature est 10 fois plus importante que les sciences humaines ou même la philosophie. C'est-à-dire, c'est grâce à la littérature, Madame Bovary et Père Goriot, etc., et Benjamin Constant, ou Proust, que j'ai pu comprendre, en effet, la singularité humaine. Et c'est ça que j'appelle le virtuel. Mais il se trouve, et c'est ça qui est tout à fait extraordinaire, que ce virtuel littéraire qui donne en effet la priorité à tout ce qui est à tout ce qui est imaginatif au sens que nous avons donné tout à l'heure, se retrouve exactement dans les sciences les plus exactes. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que ce qui paraît caractériser les hommes, c'est-à-dire le virtuel, pour les connaître vraiment dans leur individualité, eh bien, caractérise aussi les choses, et j'ai parlé des mathématiques, de la physique, etc., pour dire évidemment que ce réel-là, ce réel de grand-papa Ronchon, n'est-ce pas, n'est pas monovalent, il est au contraire ce qui pourrait ne pas être,
oui,
c'est-à-dire contingent.
Bien.
Contingent, Comé, contingent, le père Goriot, Madame Bovary, etc.
Oui, mais vous dites, donc, grand-papa Ronchon s'accroche au réel. Et vous avez dit.
Je l'ai
aussi
appelé Sancho Ronchon.
Sancho, ben voilà. Ah, voilà. Ben,
voilà,
vous m'amenez justement à ma question. Parce que vous avez mis Petite Poucette du côté de Don Quichotte.
Oui, c'est ça.
Et
Grand-papa Ronchon du côté de Sancho.
Du côté de Sancho. Or, les grands-papas Ronchon, dont je suis ici
le
porte-parole, les grands-papas Ronchon se désolent de voir que Petite Poucette ne lit pas Don Quichotte, qu'elle n'a rien à faire de Don Quichotte. S'il n'aime pas les jeux vidéo, c'est précisément parce qu'il pense que Don Quichotte, c'est mieux que les jeux vidéo. Voilà, c'est le virtuel de Don Quichotte et le virtuel de vidéo ne sont pas le même. Il y en a un qu'il faut, pensent les grands-papas Ronchon, qu'il faut absolument défendre contre l'autre. Et il est vrai qu'il nous... Il ne nous ramène pas au vieux monde,
alors,
mais il nous rattache à lui. Nous en sommes les continuateurs, les augmentateurs. Mais ce n'est pas du passéisme que de dire ça, Michel Serre.
Le continuateur du virtuel, tel qu'en effet Cervantes l'a décrit, et précisément mon discours tendait à dire ça, c'est-à-dire qu'il y a en effet une sorte de grand-père dans le couple Don Quichotte et Sancho Panza, l'un plutôt du côté du réel, l'autre plutôt du côté de l'imagination, que le couple se reproduit en effet avec le grand-papa et la petite fille, mais qui se reproduit sans arrêt dans les sciences aujourd'hui. Et par conséquent, ce que je dis là, c'est qu'il est probable que surfer sur la toile, c'est exactement s'adonner au travail précisément que Cervantes décrit lorsque Don Quichotte va avec les moulins, et va avec, etc. Vous voyez, il y a une sorte de folie imaginative. Qu'est-ce qu'il fait, Don Quichotte, au fond? Eh bien, il surfe sur le réel, n'est-ce pas? Et eh bien, cette espèce de vie, elle est transposée de façon extrêmement vivante dans l'action même de Petite Poucette. C'est Petite Poucette qui est réellement le vrai successeur. Et c'est ça mon discours, que le vrai successeur de Don Quichotte, c'est Petite Poucette, et que le vrai successeur de Sancho Panza, c'est encore Petite Poucette. Pourquoi? Parce que Sancho Panza dit à Don Quichotte, regarde Dulcinée, c'est pas une princesse, c'est une sorte de bergère malpropre. Et voyons, dès que vous êtes dans l'imagination, vous vous dites, mais c'est dans une bergère qu'un amoureux vrai trouve une femme extraordinaire. N'est-ce pas ? Et que le réel, précisément, n'est pas celui que Sancho Ronchon pense.
Oui, mais alors, j'aurais une dernière
question
à vous poser. Grand-papa Ronchon, vous dites de lui qu'il s'attache à un vieux monde qui n'est pas très glorieux et qui fut même, au XXe siècle, atroce.
Oui, mais ça, tout le monde le sait.
Tout le monde le sait. Mais justement, quelle leçon tirer de cette atrocité? Parce qu'après tout, l'atrocité au XXe siècle a fait jouer à la jeunesse un rôle central. Oui. Après tout, la révolution culturelle consistait à éradiquer les vieilles idées, la vieille culture, les vieilles coutumes, les vieilles habitudes.
Ah, vous me mettez du côté de Mao et de
Pas
Paul
du
Pont.
Tout. Oui. Jamais.
Je comprends.
Non. Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que précisément, ça ne renforce pas en nous cette responsabilité dont je parlais tout à l'heure? Il ne me viendrait absolument pas à l'idée de faire ce genre de choses.
Je crois, cher ami, que c'est intéressant de dire ça, parce qu'en effet, le XXe siècle que j'ai vécu, puisque je suis plus vieux que vous de façon très précise, ce XXe siècle qui a été atroce et qui a donné 150 millions de morts par les guerres et les crimes d'État, comme vous en parlez, écoutez, quel est le pays qui était au XXe siècle de loin le premier pour la musique, la littérature, la philosophie, les beaux-arts, etc., l'enseignement, la médecine, la science, etc., c'était de loin l'Allemagne. Et cette Allemagne-là, qui était la plus cultivée de toutes les nations, mais cette vieille culture, elle l'a protégée de quoi? C'est ça ma question. La question est vraiment très grave. C'est-à-dire, cette vieille culture, de quoi a-t-elle protégé l'Europe? Réponse, de rien. C'est quand même terrible de penser que ce vieux monde-là, tellement cultivé, tellement inouï, et c'est vrai qu'il était inouï, il n'y a pas en effet de pays plus cultivé à un moment que l'Allemagne, cette culture-là ne l'a même pas protégé des pires horreurs. Et alors là, c'est un problème. Là, je peux vous répondre de façon presque dramatique et tragique.
Oui, vous avez raison, c'est un problème tragique.
Et tragique.
Dont nous ne sommes pas sortis.
Donc, on ne peut pas faire l'éloge du nouveau monde, de l'ancien monde, de façon générale, vous voyez, puisque là, on a une expérience cruciale, terrifiante.
Oui, mais je pense que la question que je posais aussi était tragique. En tout cas, je voudrais vous remercier, Michel Serres, pour cette conversation.
C'est moi qui vous remercie, mon
cher. J'aurais aimé qu'elle puisse se poursuivre. En tout cas, pour les auditeurs, ils peuvent continuer en lisant Petite Poussette, livre publié aux éditions Le Pommier, ainsi que Andromaque Veuve Noire aux éditions de Lerne. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. Je voudrais aussi signaler que le film polonais La Dette, dont j'ai parlé sur cette antenne, c'est un très beau film, sera diffusé jeudi 12 décembre à 20h en présence de son réalisateur Raphaël Lewandowski au cinéma L'Entrepôt, rue Francis de Pressensé, dans le 14e à Paris. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Entre deux langues et mes invités seront Georges Arthur Goldschmidt et Heinz Wissmann. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et de Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Michel Mestre. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney.